VOA Afrique, les infos à Washington.
Avec vous, Henri Francisque, Média Dakar, 13h à Bangui, bienvenue à notre journal. RCA, la justice française a ordonné un long lieu dans l'enquête sur les accusations de violence en Centrafrique portées par des enfants contre des soldats français en 2013-2014, et ce, faute d'avoir pu établir leur implication. Révélée en 2015, les accusations avaient terni la réputation de l'armée française déployée dans le pays dans le cadre de l'opération Sangaris pour restaurer la sécurité après des mois de violences interconfessionnelles. Et toujours concernant la Centrafrique, les évêques de Centrafrique ont demandé au groupe armé qui règne dans une grande partie du pays de déposer les armes sans condition. Et c'était à l'issue de la session ordinaire de la conférence épiscopale de Centrafrique dimanche à Bangui. La cérémonie clôturait la session ordinaire de la conférence épiscopale et a été célébrée en présence des hautes autorités de l'État, dont le président Faustin Archange Touadéra. Les évêques ont condamné la lenteur du processus de désarmement des groupes armés, DDR, ainsi que l'inaction de certains contingents de la MINUSCA, la force de maintien de la paix des Nations Unies, en RCA. RDC maintenant, une attaque des rebelles ougandais musulmans des forces démocratiques alliées, les ADF, a été repoussée aujourd'hui à Beni dans l'est du pays, après plus de 2 heures de violents combats. Des tirs aux armes lourdes et légères ont été entendus à Beni entre 4h et 6h30. Aucun bilan n'a été fourni par l'armée congolaise. Cette attaque des ADF accusé d'avoir tué 14 casques bleus début décembre dans la même région, intervient alors que l'armée congolaise a annoncé samedi le lancement de sa propre offensive contre le groupe ougandais musulman. Les autorités congolaises et la MONUSCO, la mission des Nations Unies RDC, accusent les ADF d'avoir tué plus de 700 civils depuis octobre 2014 dans la région de Beni. Et toujours concernant la RDC au nord Kivu, dans l'est du pays, 60% de la production minière échappe au trésor public. C'est ce qui a été révélé le mois dernier à l'occasion du lancement de la campagne de lutte contre la fraude minière. Cette fraude est entretenue par des civils, des militaires et des groupes armés. Le gouvernement provincial promet de frapper fort et la société civile, de son côté, réclame un procès public et exemplaire pour tous les présumés fraudeurs déjà arrêtés. Notre correspondant à Goma, Charles Kasereka, fait le point.
Les mois derniers, 6 véhicules d'ONG humanitaires et des particuliers ont été interceptés par les services de sécurité en provenance de Masisi, une zone minière située à plus de 80 km à l'ouest de la ville de Goma. Pour les ministres provinciaux des mines, c'est une perte énorme pour la province. Anselme Kitakia, ministre des mines.
Il y a des cas qui dépassent les attendements. Vous voyez ici un cas que nous venons de saisir ce matin, à la grande barrière entre le Nord Kivu et le Rwanda. Et malheureusement, ce véhicule ici, on nous trouve dedans un carnet de bord qui montre que jour par jour, il est transporté en moyenne 5 tonnes de coltan ou 5 tonnes de nos minéraux à destination du pays voisin. C'est que notre pays, notre province, manque pourtant de ressources alors que des devises qui seraient rapatriées à partir de la vente de ces minéraux pourraient servir, n'est-ce pas, au développement de notre pays.
Différentes stratégies sont utilisées par ces présumés fraudeurs, des femmes qui faufilent des colis dans leurs vêtements et des motocyclistes qui versent des matières brutes dans les réservoirs de leurs motocyclettes. La Commission nationale de lutte contre la fraude minière promet, malgré les difficultés auxquelles est confrontée cette région trouble du Kivu, de doubler de vigilance. Daniel Mbayo, Anes Okordona, au niveau provincial.
Vous avez demandé pourquoi il y a cette recrudescence. C'est parce que les gens ont compris que nos services sont tout faits. Maintenant, il faut utiliser des services des ONG, tant nationales qu'internationales. Nous appelons au gouvernement national de nous venir en aide.
La société civile du Nord Kivu, quant à elle, demande un procès exemplaire pour ces présumés fraudeurs arrêtés. Étienne Kambale est son rapporteur.
Nous demandons aux autorités de la République démocratique du Congo de faire un procès exemplaire en aide. Mais aussi la communauté internationale. Il y a des crimes économiques ici chez nous. Que ces gens-là qui puissent répondre dans les actes.
Le gouverneur joue à l'apaisement pour ceux qui demandent un procès tout en condamnant les pays voisins qui seraient impliqués de près ou de loin dans cette fraude minière depuis des décennies en finançant des. des multiples groupes armés au Nord Kivu. Gilles Paloukou, le gouverneur.
Les dossiers sont entre les mains de la justice. Et tout ce que vous avez vu là-bas, ça fait mal. Pas seulement mal aux fraudeurs congolais, mais ça fait mal à tous les acteurs internationaux qui sont dans cette mafia. Parce que vous savez qu'il y a beaucoup de pays qui se sont déjà improvisés producteurs de minerais, alors qu'ils ne disposent d'aucun puits. Il y a même des pays qui enfouissent les minerais qui viennent du Congo pour les exploiter à les déterrant.
Il y a peu de comptoirs d'achat des minerais opérationnels à Goma et la frontière sur le lac Kivu n'est pas bien surveillée par manque de moyens suffisants pour les forces navales, dit le ministre provincial des Mines, Charlie Kasereka depuis Goma pour VOA Afrique.
Le président tanzanien John Magufuli et rwandais Paul Kagame ont conclu un accord dimanche sur la construction d'une voie ferrée de 400 km entre leurs deux pays. C'est ce qu'a annoncé le chef de l'État tanzanien et selon lui, les travaux devraient débuter en 2018. Monsieur Magufuli a dit que cette voie ferrée permettra non seulement d'accroître les échanges commerciaux entre le Rwanda et la Tanzanie, mais aussi avec l'Est de la République démocratique du Congo et avec les pays de la communauté d'Afrique de l'Est.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Afrique de l'Ouest maintenant, au Sénégal, la gendarmerie a confirmé dans un communiqué avoir arrêté 22 personnes dans l'enquête sur le massacre de 14 coupeurs de bois en Casamance. Plus de détails avec Claire Morin-Gibourg.
Il s'agit des toutes premières interpellations depuis cette tuerie qui a eu lieu le 6 janvier dans la forêt protégée de Bayotte, proche de Ziguinchor. Parmi les personnes arrêtées figurent 4 jeunes membres d'un comité villageois de surveillance des forêts, condamné puis libéré en octobre dernier à la suite d'un conflit avec des exploitants forestiers. Selon des experts et le mouvement des forces démocratiques de Casamance, la rébellion, ce massacre pourrait être lié à l'exploitation illicite de bois précieux en Casamance. La région est en proie à une rébellion indépendantiste depuis 1982, mais qui connaît une accalmie ces dernières années. Le ministre de la Justice, Ismaïla Madior Fall, a annoncé le 9 janvier un renforcement de la répression du trafic de bois en Casamance.
Mali, les FAMA, les forces armées maliennes se préparent à lancer une vaste opération de sécurisation des régions du centre du pays. Le but est de traquer tous les groupes terroristes et djihadistes qui y sévissent. Cette opération vise aussi à permettre le retour de l'administration et l'organisation des élections générales de 2018. On écoute le général de brigade, Salif Traoré, qui est le ministre de la Sécurité intérieure et de la Protection civile au Mali.
Il est vrai qu'il y a une instabilité dans cette partie de notre pays. Ce plan vise donc à corriger cette instabilité-là à travers les piliers sécurité, gouvernance, développement et communication. Nous sommes arrivés à la conclusion qu'on ne pouvait pas résoudre ces problèmes-là par la simple force armée. Il fallait que l'administration soit là, et qu'il fallait parler avec la population et qu'il fallait aider la population pour qu'elle puisse rester avec des actions de développement. Nous avons déjà 2 sites stratégiques dans la région de Mopti qui sont occupés aujourd'hui par les forces de sécurité. Et dans le premier site qui est Kwapru, nous avons déjà l'administration, l'école, la santé, tout est revenu et la vie reprend là-bas. Nous allons donc mettre les bouchées doubles pour que dans les 2 mois à venir, 3 mois à venir, nous puissions être présents dans l'essentiel de cette zone-là pour que la population civile puisse retrouver le calme.
Actualité américaine maintenant, les perspectives d'un compromis entre républicains et démocrates sur l'immigration s'éloignent aux États-Unis. Après plusieurs jours de controverses, suite à des propos qu'aurait tenus le président Donald Trump jeudi dernier, lors d'une réunion avec des parlementaires à la Maison-Blanche. Les détails avec Jean-Roger Bion.
Une fois de plus, c'est sur Twitter que Donald Trump s'est exprimé. « Dhaka est probablement mort », a-t-il lancé, faisant référence au programme créé sous Barack Obama qui permet à 690 000 jeunes immigrés de travailler et d'étudier aux États-Unis en toute légalité. Ce programme est au cœur d'un bras de fer entre le président qui a annoncé sa suppression et les démocrates qui veulent le préserver. Donald Trump a proposé un accord, une solution pour les Dreamers, le surnom des jeunes du programme DACA, en échange du financement du mur controversé qu'il veut ériger à la frontière avec le Mexique, soit 18 milliards de dollars. Le président américain a donné jusqu'à début mars aux parlementaires pour trouver un compromis sur le sujet. Il réclame aussi la suppression de la loterie annuelle des cartes vertes et une réforme de l'immigration légale pour réduire le rapprochement familial.
Et pour terminer, le pape François s'est envolé ce lundi matin pour son 22e voyage à l'étranger qui le mènera d'abord au Chili du 15 au 18 janvier, puis au Pérou du 18 au 21 janvier. Merci de votre attention.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.